Eh bien, est-ce que c'est encore le temps de faire des résolutions de nouvelle année? Non? Écoute, on est en mi-janvier. Laissez-moi vous en donner une ce matin. J'aimerais vous donner une petite, petite résolution pour la nouvelle année 2019. D'accord? Petit. Changer le monde. Là, je sais ce que vous pensez. Là vous allez me dire, bien non, normalement, ça n'a pas de bon sens. Je suis fatigué juste à y passer. Ça, c'est bien trop gros. Écoutez, rassurez-vous. Savez-vous que Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour faire une grande différence autour de nous autres? Et c'est sa volonté. Moi, je vous invite à venir avec moi, me joindre dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, nous allons lire les 7 premiers versets. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la Bible blanche qu'on donne ici souvent au Nouveau. C'est à la page 180, si vous avez cette Bible blanche. Moi, c'est la même chose, la même version finalement, mais excepté, c'est en caractère plus gros. Pas de commentaire, hein? Donc, il y avait quelqu'un qui me regardait lire la Bible souvent dimanche matin, puis j'étais comme ça, tu sais, en avant. Fait qu'elle est venue me voir, elle me dit, « Bien, peut-être que tu pourrais changer de version, mettre plus gros, tu sais. » Finalement, c'était dur, mon orgueil. C'était dur, mais finalement, j'ai accepté. J'ai dit, « OK, vas-y, on y va, normalement. » OK, alors, vous êtes là, 1 Timothée 2, verset 1. « Alors, j'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon, qui est agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été prédicateur, établi prédicateur et apôtre. Je le dis, je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner des non-juifs dans la foi et dans la vérité. Dieu veut se servir de nous pour transformer le monde. D'ailleurs, si vous regardez dans Matthieu 5, 13, voici ce que ça dit. « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils soient votre belle manière, qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Ça veut dire ça, que tu étais une lumière? Tu es une lumière, tu es une lampe. Jésus nous dit, « Vous êtes le sel, vous êtes la lampe qui éclaire dans les ténèbres. » Maintenant, le sel, ça fait quoi? Ça améliore la saveur. La lampe aussi va éclairer les ténèbres. Et plus la lumière est forte, plus il y a de la puissance, plus que ça dissipe les ténèbres. Vous et moi, nous pouvons exercer une grande influence, une puissante influence sur notre monde, sur notre famille, dans notre milieu de travail et même dans nos loisirs. Comment c'est possible? Comment quelques personnes comme nous pouvons faire une grosse puissance, une grosse différence dans notre société? Eh bien, ce qu'on va apprendre dans les Écritures, c'est qu'on dispose de vraiment 4 forces d'influence que Dieu nous a données à notre disposition pour avoir un impact autour de nous. Notre témoignage aura un impact autour de nous. Notre message va avoir un impact autour de nous. Nos actions vont avoir un impact autour de nous. Et nos prières auront un impact autour de nous. Ce sont les quatre forces d'influence dont on dispose qui vont faire vraiment une différence autour de nous. On ne voit pas toujours les résultats, mais Dieu est à l'œuvre. Et Dieu se sert de toutes ces choses-là pour faire avancer son œuvre. Et c'est ce que Dieu désire, que l'on exerce une influence tout autour de nous. Et c'est ça clairement affirmé dans la parole de Dieu. Et si on ne le fait pas, c'est comme du sel qui perd de sa saveur. Regardez, Matthieu 5, 13 dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Le sel qui n'a plus d'influence ou d'impact ou de saveur, ça n'a plus d'impact. Premièrement, notre témoignage. On peut, par notre témoignage, vraiment avoir tout un impact autour de nous. Le témoignage, c'est ton caractère. C'est le fruit de l'esprit. C'est ton attitude. Jean 13, 35 dit ceci, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est une des choses qui frappe lorsque des gens viennent dans notre Église. C'est une des choses qu'ils vont nous dire. J'en reviens pas comment vous êtes des gens qui avaient beaucoup d'amour les uns pour les autres. C'est une des choses, ça frappe, ça parle fort. C'est l'attitude, c'est notre caractère. Aussi par notre message, l'Évangile. Dans Romains 10, 13, ça dit ceci, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Si on ferme notre bouche et on ne parle jamais de l'Évangile, qu'on ne fait pas connaître l'Évangile, comment les gens croiront-ils? On a besoin de rendre témoignage. Et ça, c'est par la puissance de l'Évangile que les gens vont être transformés. La Bible est claire là-dessus que l'Évangile, le message de l'Évangile, est la puissance de Dieu. Dieu agit. Et dire Dieu organise toujours des rendez-vous divins. C'est vraiment fameux de voir comment des fois, toi, tu es gêné, tu es timide, tu trouves un petit peu de courage de pouvoir commencer à parler de Jésus. Et sans le réaliser, Dieu était déjà au rendez-vous, puis il était déjà en train de préparer le cœur de la personne à qui tu étais en train de parler de l'Évangile. C'est beau de voir les rendez-vous divins. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, on avait déménagé à Laval, et puis c'est dans un nouveau quartier, et puis on a acheté une maison. Et la maison qui est à côté de chez nous, c'était une maison qui venait d'être construite, elle était vide, il n'y avait personne qui restait dedans. Donc, quand Lise et moi, on a déménagé là, on a prié, on a demandé au Seigneur, « Seigneur, voici ce qu'on aimerait te demander. » On aimerait te demander que ce soit des gens, des chrétiens à côté de chez nous qui déménagent là, ou que ce soit des personnes qui viennent à Jésus. Et on priait pour ça. Et finalement, la maison était vendue, c'était un couple, le gars était un Italien, Ugopane, tu ne peux pas être plus italien que ça, Ugopane, qui s'appelait, et puis Lynn, sa femme. Et puis, ils ont déménagé à côté, puis ils n'étaient pas chrétiens. Et puis, le temps a passé, on s'est présenté, on s'est salué et tout ça. Et puis, il y a eu une petite blessure à la jambe et tout ça. Et en plus, il n'y avait pas de tondeuse. Donc, moi, je coupais mon gazon. Puis finalement, j'ai décidé, pour l'aider, d'aller couper son gazon. Un peu comme Mme Brossard fait, là, puis M. Brossard, il coupe les terrains chez les voisins et tout ça. C'est vraiment bien. Alors là, j'ai décidé de couper le gazon pour l'aider, tu sais. Fait que alors, je coupe, tu sais, puis il faut comprendre une chose, c'est que je ne sais pas pourquoi. Moi, les maringouins m'aiment. Ils m'aiment. Moi, je vais prendre une marche avec Lise. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si Lise avait une petite pancarte en avant, puis ça disait « détour ». Puis là, ils s'en vont tous sur Normand à côté. Et là, fait que moi, je passais le tondeuse, puis j'étais là. Puis lui, il me voyait dans la maison, là. Vous voyez la maison, puis fait que lui, il était surpris parce que je n'ai pas dit que je n'allais pas couper son gazon. Donc, il regarde sa femme, il est dans la cuisine, puis il regarde à travers le porte-patio, puis il dit Hey, Lynn! Lynn! Je l'ai su parce qu'il me l'a dit après. Il dit Lynn! Il dit Notre voisin, il coupe le gazon! Il était tout surpris. Fait que là, je coupais le gazon, puis je suis de même. Et là, à un moment donné, il se sentait tellement mal parce que je l'ai fait pendant deux fois. Et puis, j'étais tellement content quand il s'est acheté une tondeuse. Et puis. Et là, j'y vais pendant deux fois, et puis là, il se sentait tellement mal qu'il se sentait obligé de faire quelque chose pour nous remercier. OK? Fait que là, apparemment, on a tout appris ça après. Il a dit à sa femme, il dit, écoute, on va l'inviter à souper. Et il dit, hey, écoute, j'espère qu'ils vont dire non, mais juste par politesse, on va lui demander. T'sais. Fait qu'à un moment donné, j'en ai passé à la tondeuse, il ouvre la porte patio, puis me regarde, puis il dit, hey Norm! Quoi? Écoute, on aimerait ça te remercier, puis on aimerait ça t'inviter à souper samedi soir, toi puis ta femme, pour te remercier pour tout ce que tu fais, tu sais. Fait qu'il me regarde, il dit, samedi soir, tu sais, puis je regarde, il dit, ah oui, super, merci. Fait qu'il dit, OK. Alors là, on s'en va, là, le samedi soir, chez eux pour souper. On est en train de jaser. Ils ne nous connaissent pas. On ne les connaît pas. Alors, on est en train de jaser, on est en train de faire connaissance et tout ça. Et puis là, on est en train de parler, puis dans la discussion, il commence à parler de sa cousine. Nous autres, on allait à l'église de Chemédé. Puis, il est en train de parler de sa cousine, France Blais. Il dit, hey, elle, il dit, non, mais moi, il ne me dit pas le nom. Il dit juste, il dit, nous autres, on a une cousine. Il dit, Lynn a une cousine, France Blais. Elle est missionnaire en Afrique. Elle est dans une patente, mon ami, une baptiste. Là, tout, tu sais. Ça donnait que France Blais était membre dans notre église. Puis, c'est nous qui l'avions envoyée en Afrique. Lui, c'est pas ça. Il dit, « Est dans une affaire de patente, là, mon ami. » Il dit, « Hey, mon ami. » Je dis, « C'est quoi son nom? » Il dit, « France Blais. » Je dis, « France Blais? » Je dis, « Mon Dieu, elle est membre de notre église. On va dans la même église. » Il me dit après, il dit, « Normand, s'il y avait eu une craque à quelque part, je serais sauté dedans, me cacher. Je me sentais tellement mal. » Et là, on a commencé tranquillement à lui parler de l'Évangile. On a échangé, on a parlé de tout ça. Et puis, il était vraiment fermé. Il n'était pas ouvert du tout, là, je te dis. Et puis, en tout cas, on a fini la soirée. Puis, de temps en temps, il sortait dehors. Puis, tout ça, regarde, il y a un bon livre, tu sais. Tu vas pouvoir comprendre le message de l'Évangile, tout ça. T'sais. Ah, OK, merci, merci, merci. Hey, écoute, et il s'était rendu, à un moment donné, qu'il disait, il me l'a dit plus tard, il dit, Normand, il dit, je regardais à travers la fenêtre pour voir si tu étais dehors, parce que je ne voulais pas t'entendre parler de Jésus. Puis là, je disais, hey Lynn, ils ne sont pas là, dépêche-toi. Puis là, il ouvrait la porte, il se dépêchait pour embarquer dans la voiture puis s'en aller. Il ne voulait pas entendre parler de l'Évangile. Mais qu'est-ce que je vous dis tantôt? Le Seigneur fait son œuvre. Il fait son travail, lui. Alors nous, on était juste là à présenter l'Évangile, mais Dieu lui faisait son œuvre. Regardez bien ce qu'Ésaïe 55 dit. « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Nous, on ne réalise pas ça, mais tranquillement, Dieu est en train de faire son œuvre dans leur cœur, le cœur de Hugo et Lynn. Ça a pris à peu près un an. Et il y a même une shot, une fois, je lui ai donné, les jeunes, vous ne connaîtrez pas ça, ça s'appelle cassette, c'était carré comme ça. Puis vous autres, on appellerait ça podcast, OK? Mais c'est ça, fait que c'est la même affaire que podcast, à peu près, peu de choses près. Et puis, on lui a donné ça un an, puis c'était un gars, Alain Chouaquier, c'était un prédicateur français, il venait à Montréal de temps en temps. Puis je dis, regarde, il parlait de la paix. Puis elle était stressée dans son travail de technicienne au laboratoire à l'hôpital Bellechasse. Elle était stressée, beaucoup d'ouvrages et tout ça. Elle était nerveuse. Et c'est drôle, sans le savoir, Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi un message qui allait justement répondre à ce besoin qu'elle avait tant. Et elle est chez elle, dans son lit, nous on est chez nous, et tranquillement le Saint-Esprit a touché son cœur, puis ce jour-là, elle a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et les deux se sont convertis, sont venus au Seigneur Jésus. Lui est devenu le trésorier de l'Église avec le temps, de l'Église de Chemédé. Elle est devenue la surintendante de toute l'école du dimanche, du TEE de l'Église. Dieu qui opère. Ils étaient fermés, ils ne voulaient rien savoir. Ils se cachaient pour ne pas entendre parler de Jésus. Mais Dieu est allé les rencontrer où ils étaient pour toucher leur cœur. Voyez-vous? Et alors, lorsque tu donnes ton témoignage, toi, tu ne réalises pas, mais rappelle-toi que Dieu, lui, fait son œuvre dans l'ombre. Tu ne verras peut-être pas toujours les résultats, mais Dieu est là et il va accomplir sa volonté. Une troisième manière, aussi, troisième force d'influence qu'on a aussi, c'est nos actions, nos bonnes œuvres, faire du bien aux autres. C'est Hébreux 10, 24 qui dit ceci. Il dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Faire du bien aux autres, ça va avoir un impact, ça va faire une différence. Il y a un organisme qui vient, qui se sert de notre salle ici aux deux mois, et puis il y a beaucoup d'ouvrages à faire, là. C'est comme, il faut tout préparer la salle et tout ça, puis c'est André Saint-Louis qui travaille tellement fort à tout faire ça. Et puis, il aide beaucoup l'organisme, puis il donne beaucoup de temps, il est très généreux. Et puis, bouche tes oreilles, là, André, là, je vais parler de toi un petit peu. Je vais parler non, je ne parlerai pas dans ton dos, je suis juste en avant de toi. Hein. Mais hey, tellement il est généreux, là. Il en fait, puis il a une belle attitude, tellement que la responsable de l'organisme a été touchée, elle n'en revenait pas. Elle dit, j'en viens pas, cet homme-là, il est tellement gentil. Puis, il passe beaucoup de temps, des heures et des heures, à s'occuper d'aider cet organisme-là, qui n'est pas chrétien. Et puis, la responsable, une des responsables, est même bouddhiste. Et elle lit de la littérature bouddhiste. Et elle a ouvert son cœur, à un moment donné, tellement touchée par le témoignage de notre frère, qu'elle a ouvert son cœur, elle a dit, sais-tu, elle dit, je lis beaucoup de choses, le bouddhiste, tout ça, mais ça ne me satisfait pas. Et elle a parlé à Dominique était là, Dominique King lui a donné une Bible, il lui a indiqué où lire, et elle a commencé à lire la parole de Dieu. Mais ça a commencé comment? Le beau témoignage de notre frère André. Vous savez, faire du bien à ceux qui nous entourent, et on veut faire ça. On a toutes sortes de projets à l'Église, qu'on veut faire du bien à la communauté, on veut bénir la communauté. Et ça, c'est une des fortes influences qu'on peut avoir, une force d'influence. Une autre aussi, c'est la prière. C'est la quatrième force d'influence, la prière. Vous savez, on le voit ici, et c'est ce qui explique la raison pour laquelle l'apôtre Paul va commencer en nous exhortant à prier. Le deuxième chapitre de 1 Timothée nous commence en nous exhortant à prier. On voit d'ailleurs comment nos prières et notre façon de vivre peuvent même influencer jusqu'aux les gouvernements. Ça a tout un impact. 1 Timothée 2, là, tout le chapitre de 1 Timothée 2, c'est un appel à prier et à vivre pour l'Évangile. Dieu nous appelle à prier pour transformer le monde. On le voit déjà au premier verset. Si on retourne à 1 Timothée 2, regardez bien le premier verset, qu'est-ce que ça dit? « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance. » L'expression, c'est assez fort dans l'original, c'est vraiment intense. Ça dit, ça parle d'intensité, de ferveur, d'être passionné à prier. Mais ça parle aussi de l'urgence, parce que Paul va dire littéralement, « avant tout, prier ». En d'autres mots, faisant une priorité que la prière, que ça en soit une priorité dans notre vie, dans notre cellule, dans notre horaire. Puis on pense que la prière, ça a besoin d'être bien long et tout ça. Non, si tu n'as jamais prié, tu peux commencer. Tu prends ton cellulaire, puis tu te mets, il y a une horloge, mets un minuteur, mets 3 minutes, d'accord? 3 minutes tous les jours, chrono, puis tu pries. D'accord? Juste 3 minutes, chaque jour, cette semaine. Semaine après, tu mets 4 minutes. Et là, tu pries pendant 4 minutes. La semaine suivante, 5 minutes. Tous les jours. Et tu vas voir qu'avec le temps, tu n'auras même plus besoin de ton téléphone. C'est une nouvelle habitude à insérer dans notre vie. Et on a besoin de ça. Paul, il dit, c'est urgent, il faut prier. Il dit, avant tout, prier. Alors, comme enfant de Dieu, on a besoin de faire de la prière une priorité. C'est la première chose que Paul va mentionner. La puissance des chrétiens, mes amis, c'est la prière. Si on laisse tomber la prière, si on néglige la prière, on aura beau avoir toutes sortes de programmes, de projets, de ministères, mais il n'y aurait pas la puissance, le fruit surnaturel qui va en découler. C'est à peu près comme avoir une belle bâtisse comme ici, avoir des fils électriques partout dans les murs, avoir des belles lampes, des fixtures, l'air climatisé, tout ça. Mais si tu n'es pas branché dans le générateur, il n'y aurait pas de courant, il n'y aurait pas de puissance, pas d'énergie. Et c'est ça que la prière nous procure. La puissance des chrétiens, c'est la prière. Paul le sait, il priait constamment. On voit Paul prier constamment dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'il dit, avant tout, prier. La prière peut toucher le cœur de quelqu'un, même à distance. La prière peut aussi unir des cœurs désunis, même dans des mariages qui ne vont pas bien. Tu commences à prier, et là, Dieu opère une œuvre dans les cœurs, attendrit les cœurs. La prière peut transformer une personne. Et plus on s'approche de Jésus dans la prière, plus le Saint-Esprit nous rend semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est à peu près comme deux conjoints qui déteignent l'un sur l'autre. Jésus-Christ veut imprimer son caractère divin sur toi et en nous. Là où il n'y a que de la péché, au naturel, il y a que de la du péché, de la laideur, du ténèbre, Jésus veut placer en toi sa beauté, sa lumière, sa douceur et sa pureté. C'est ce que Jésus veut faire en toi. Il y a donc plusieurs raisons pour prier. Mais Paul va en mentionner deux ici dans ce passage. La première porte sur la compassion de Dieu qui veut sauver des âmes, sauver des pécheurs, sauver les gens. Nous prions car Dieu veut sauver les pécheurs. Verset 1, on revient ici. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Regardez ce qu'il dit. Il dit, on prie pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, en toute piété et respect. Voyez-vous, c'est le Seigneur ici, à travers la plume de Paul, qui est en train de nous demander de prier pour nos gouvernements. Et il faut comprendre le contexte historique de l'apôtre Paul. Paul vit dans l'Empire romain, et l'Empire romain détestait les chrétiens. Et l'Empire romain était loin d'être pro-chrétien. Ils n'étaient pas reconnus pour leur moralité ni leur sainteté. Mais c'est dans ce contexte-là que Paul demande des prières pour le gouvernement. C'est un gouvernement anti-chrétien. Ils vont même jusqu'à persécuter les chrétiens. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu veut les sauver. Toute cette requête de Paul se fonde sur le désir de Dieu de propager l'Évangile. Et c'est le but de Dieu. Il veut que tout le monde, même ceux qui sont contre lui, même ceux qui le haïssent, même ceux qui persécutent son peuple, viennent au salut. D'ailleurs, Paul en était un, de ceux-là. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul était, il a dit même au chapitre avant, « J'étais le pire des pécheurs. » Il tuait des chrétiens. Il les mettait en prison. Il leur faisait du mal. Et pourtant, on le voit devenir même apôtre. Au verset 7, ça dit, « J'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Dieu. Je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. » Ce gars-là qui tuait les chrétiens, le voilà aujourd'hui en train de propager le message de l'Évangile. En d'autres mots, il est en train de dire, « Je suis la preuve vivante que Dieu veut atteindre les pécheurs. J'étais le pire et Dieu m'a sauvé, m'a transformé, si bien que je proclame maintenant le message. » Que je détestais et pour lequel je tuais. Ce qui ressort de tout ce passage, c'est la compassion et l'amour de notre Dieu. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il est en train de nous dire, je veux sauver les pécheurs. Mon but n'est pas de détruire. Mon but est toujours de gagner le pécheur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Paul ajoute un élément ici. Il dit, priez afin que nous, les chrétiens, puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Est-ce que ça ne vous fait pas penser un peu à la liberté de la religion, ça, cette expression-là que Paul vient de mentionner? Nous, on appelle ça comme ça au Canada, la liberté de religion. Alors, ce que Paul est en train de prier, est en train de demander que l'on puisse prier afin qu'on ait une vie tranquille, paisible, en toute piété, en tout respect. Ça parle de la liberté de religion, ça, ici. Nous avons besoin de prier pour nos gouvernements parce que la liberté de religion est remise en cause au Canada présentement. Je parlais à une avocate chrétienne la semaine dernière, puis elle me racontait qu'elle disait, parce qu'elle travaille au gouvernement, elle s'implique dans des organismes, justement, qu'on va parler tantôt, UVVC et d'autres, pour aider pour les valeurs chrétiennes au gouvernement et tout ça. Elle me disait, Normand, dans les prochaines années, ça va être très difficile, particulièrement pour les églises et pour les chrétiens. Il y a à peine 3 mois, le président de notre association d'églises transcanadiennes à travers le Canada, des églises baptistes, a écrit un article, un vibrant appel pour que les églises puissent prier et passer à l'action et intervenir. Son article s'intitulait « La liberté religieuse est-elle sur le point de disparaître? » Il expliquait comment il y avait des discussions en ce moment même à la Chambre des communes sur la question de la liberté religieuse. Il expliquait comment l'année 2018 a été une année particulièrement difficile pour les croyants. Plusieurs batailles ont été perdues. Il cite quelques exemples. Laissez-moi vous en donner juste une. le jugement de la Cour suprême, par exemple, à l'encontre de la Trinity Western University sur la liberté religieuse. Cette université est une université chrétienne, puis ils ont une faculté de droit, puis ils voulaient encourager des étudiants à devenir des avocats. Et puis, le gouvernement a refusé. Ils ne reconnaîtront pas les avocats qui sortiront de cette université en raison de certaines de leurs valeurs chrétiennes qui vont à l'opposé de l'idéologie du gouvernement. Imaginez, ça commence, là, ça a un impact, là, on le voit. Là. Et Steve Jones conclut en disant, « Nous espérons qu'animés d'un esprit de prière, nos églises passeront à l'action. » Il dit « Priez ». Et passer à l'action. Et c'est ce qu'on veut faire comme Église. On veut vraiment prier pour nos gouvernements. Et on veut encourager les organismes qui se mouillent, qui s'impliquent auprès des gouvernements. Et on pense à UVVC. Ils sont ici avec une table à l'arrière ce matin, les représentants. Et puis, ils ont vraiment une belle mission. Laissez-moi vous lire leur mission. Être une voix pour promouvoir notre patrimoine et nos valeurs judéo-chrétiennes sur la place publique, auprès du gouvernement, dans nos lieux d'enseignement, et dans les médias. Alors, UVVC a de belles valeurs, je disais, toutes les valeurs, la mission, la vision de cet organisme. Et on vous encourage vraiment à prendre quelques minutes, à aller les voir après le service et leur poser leurs questions, des questions. Et on a besoin de prier pour nos gouvernements. Et c'est ce que le Seigneur demande afin qu'on soit libre de répandre l'Évangile. Et si on reprend cette phrase de l'apôtre Paul, prier pour qu'on ait la vie tranquille et tout ça, on pourrait penser hein, qu'on ait. Prier pour qu'on ait la paix, puis que le gouvernement reste tranquille, puis qu'on ait la belle vie, que ça soit relax. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il est en train de demander. En fait, on peut savoir ce qu'il est en train de demander parce qu'il va se servir du même langage dans un autre texte qu'il va écrire dans Thessaloniciens. C'est vraiment dans le contexte de pouvoir faire avancer l'Évangile, le progrès de l'Évangile. Ce qu'il demande, c'est qu'on prie afin d'avoir des conditions paisibles où les chrétiens pourront être de bons témoignages et vivent comme de bons chrétiens, afin que les non-croyants puissent être touchés et attirés à Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de demander, là, compris pour le gouvernement, pour ça. Paul se sert du même langage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10. Et je ne sais pas si je vais être capable de me rendre là. Oui, c'est bon. Et voici ce que ça dit. « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. » Vous voyez, encore, le but, c'est que les gens puissent venir à Jésus-Christ. C'est ça la prière ici. Alors, sous quelle sorte de gouvernement est-il plus aisé d'amener les gens à Jésus-Christ? Et à la vérité, c'est sous un gouvernement qui sera attaché au bien. Et c'est pourquoi Dieu veut un bon gouvernement. En fait, Dieu est en train de nous demander de prier pour qu'on ait un bon gouvernement. C'est sa requête. Maintenant, Dieu peut travailler avec toutes sortes de gouvernements. On le voit à travers le monde. Il y a des réveils spirituels, même dans des pays où c'est interdit de propager l'Évangile. Il y a des milliers de personnes qui vont au Seigneur. Les chrétiens se réunissent cachés dans des églises souterraines, clandestines. On comprend ça. Dieu est puissant. Mais il nous demande quand même de prier pour qu'on ait un bon gouvernement afin que nous puissions être libres de propager l'Évangile, afin que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. C'est donc la volonté de Dieu que son peuple prie pour avoir un bon gouvernement afin de répandre l'Évangile. Dieu veut que l'Évangile progresse. Il veut voir des gens venir à Jésus pour être sauvés. C'est sa compassion pour les gens, ça. C'est son cœur, son amour pour nous. Verset 3 dit ceci, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est son cœur. Et c'est notre mission comme Église, faire des disciples. Et faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, notre mission est vraiment de faire des disciples, propager la bonne nouvelle, faire du bien à la communauté, bénir la communauté, afin que les gens puissent venir à découvrir Jésus-Christ. C'est notre mission, on s'est rassemblés, on s'est réunis, tous les anciens, les aspirants en formation, juste avant les fêtes, et puis on est allés au camp des boulots pour toute une fin de semaine. On vous remercie pour ceux qui ont prié pour ça. On vous avait demandé de prier pour ça, Alex aussi, vous avez demandé de prier pour ça. Et Dieu est en train de faire une belle œuvre. On est excités, on a hâte de vous partager ça, cette belle vision qu'on a. Et puis, on est en train de travailler, on continue à travailler sur cette vision-là. Mais c'est ce qu'on veut. On veut remplir cette salle. D'ailleurs, notre prière, on veut continuer à 9h30 les services dimanche matin, une seule célébration à 9h30. Et puis, on va avoir de 11h à midi, on va continuer à avoir des groupes connexion et puis le Sunday Party. Et notre objectif, c'est qu'on va garder une seule célébration jusqu'à temps qu'il y ait 360 personnes assises, adultes, ici dans cette salle. Ça, ce que ça veut dire, c'est une prière de foi, ça veut dire qu'il va y avoir des conversions. On prie pour des conversions, vous priez pour ça. Et priez qu'on soit obligé de retourner à une deuxième célébration. Parce que ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur aura touché des gens et ils seront venus à Jésus-Christ. Est-ce que j'entends des gros « Amen » Amen. C'est ça qu'on veut, voir des gens venir à Jésus-Christ. Et Dieu veut voir des gens venir à lui pour avoir le salut. Et c'est la prière, c'est par la prière, ça commence par la prière, où là on va voir un réveil. C'est A.T. Pearson qui disait ceci, « Dans l'histoire, tout réveil spirituel, tout mouvement chrétien extraordinaire a commencé par un mouvement d'intercession. » Les prières du peuple de Dieu ont ouvert la voie pour que des multitudes viennent à la foi en Jésus. Chaque étape, dit Pearson, chaque étape des progrès des missions est marquée par la prière, directement reliée à ces dernières. Il s'agit de la préparation pour tout nouveau triomphe et le secret de toute réussite. Amen. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir un impact autour de nous? Eh bien, tu regardes l'histoire de l'Église, puis c'est plein de témoignages des communautés qui ont changé parce que des chrétiens ont commencé à prier. Laissez-moi vous parler juste d'une anecdote à Sacramento, dans le quartier le plus violent de Sacramento. C'était un quartier où c'était le taux le plus élevé de criminalité, des meurtres, des vols, des agressions sexuelles. Un quartier à Sacramento, en Californie. Eh bien, il y a un petit groupe de 8 personnes ont décidé, même ça, des gars, les personnes venaient de différentes églises, 8 personnes ont décidé de se réunir à chaque semaine pour prier pour ce quartier-là qui était le plus violent de Sacramento. Alors, ils ont décidé ensemble de faire des rues, se promener dans la rue la plus violente, c'était dangereux, là, il y avait un risque, là. Puis ils ont décidé de marcher dans les rues devant chaque maison, puis ils ont commencé à prier pour chaque maison. Et il faut savoir que chaque maison représentait un danger dans ce quartier-là. Chaque maison, c'était fou, là. Et puis, c'était le taux le plus élevé en criminalité. Alors, ils ont décidé de marcher, puis s'arrêtaient devant les maisons et priaient devant chaque maison. Et savez-vous ce qui s'est passé? Il y a une femme qui était en fusil de les voir dehors. Elle est sortie dehors, elle a commencé à crier après eux autres, elle les a engueulés, elle a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Alors, les chrétiens ont commencé à lui partager ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient en train de prier pour elle, pour son foyer, pour sa maison et pour les maisons du quartier. Elle était tellement touchée qu'elle a ouvert son cœur, elle a commencé à parler de sa vie, puis elle a demandé qu'ils puissent prier pour elle. Ils l'ont entourée, ils ont commencé à prier pour elle. Avec le temps, peu de temps après, ils ont décidé, les 8, de déménager littéralement dans ce quartier-là si violent. Imagine-toi, là. Ils ont décidé de déménager là et d'implanter une église dans le quartier le plus dangereux de Sacramento. Ils ont commencé une église. En l'espace de 2 ans environ, ça n'a pas pris de temps, là, juste 2 ans, le journal de Sacramento a fait le rapport que dans la dernière année, et là, on parle finalement, là, c'est comme ça avait commencé déjà un an avant, là. Le journal a dit ceci, a rapporté que dans la dernière année, il n'y avait eu aucun meurtre, aucun vol, aucun crime. Come on, peuple de Dieu sentier, come on! Allez, debout, ovation au Seigneur, allez, commande, on applaudit le Seigneur. Plus fort, plus fort. Et Dieu est capable, amen. C'est ça que Dieu veut faire dans ton coin, chez vous. Dieu est capable. En l'espace d'une année presque, juste une année, il y a eu un bouleversement dans ce quartier à Sacramento. Et ça a commencé comment? Ça a commencé parce que 8 personnes ont prié pour le quartier. C'est fort? Et ensemble, mes chers amis, on a besoin de commencer à prier ici, là. Il y en a déjà qui prient, ça fait des années que vous priez. On veut continuer à prier, on ne veut pas se laisser aller. Il y a une seconde raison aussi. Nous prions car Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. On a l'Évangile ici en quelques mots. C'est puissant comme verset. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pour ça qu'ici, on ne prie pas les saints. Parce que ça, c'est un verset qui m'avait frappé lorsque je suis venu au Seigneur. Une des choses, un des premiers versets qui m'a vraiment frappé. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, sinon que Jésus. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah, je lisais Genèse 6 l'autre jour, j'étais tellement triste de voir la peine que nos péchés causent à Dieu. Genèse 6, 5 dit ceci, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Un cœur brisé, vous savez, c'est ce que fait nos péchés. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Voyant l'état lamentable de nos cœurs, voyant le péché qui abondait, il a décidé d'envoyer son fils, son propre fils. Jean Calvin, qui médite sur 1 Timothée, dit ceci à propos de ce verset, que Jésus est le seul médiateur. Il était de la plus grande importance pour nous que celui qui devait être notre médiateur soit vrai Dieu et vrai homme. Il n'y avait aucune solution à une situation désespérée, à moins que la majesté de Dieu ne s'abaisse jusqu'à nous, puisqu'il n'était pas en notre pouvoir de nous élever jusqu'à elle. C'est pourquoi il a fallu que le Fils de Dieu devienne pour nous Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, de telle manière que sa divinité et sa nature humaine soient unies ensemble. Car nos souillures et sa pureté étaient trop opposées. Même si l'homme avait conservé son intégrité, sa condition aurait été trop basse pour pouvoir s'élever à Dieu sans médiateur. Jésus n'a pas dédaigné de prendre ce qui nous était propre pour être un avec nous et nous unir à lui en ce qui lui était propre. Et par ce moyen, de devenir en même temps fils de Dieu et fils d'homme avec nous. D'où cette sainte fraternité qu'il évoque en disant dans Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Voilà comment nous sommes assurés de l'héritage céleste, dit-il. Le Fils unique de Dieu, à qui l'héritage de l'univers appartient, nous a adoptés pour ses frères et par conséquent, nous sommes ses co-héritiers. Amen. Seul celui qui est vrai Dieu et vrai homme pouvait nous réconcilier avec Dieu. Alors nous voulons donc prier, bien-aimés, afin de voir notre monde transformé par la puissance de l'Évangile. Car Dieu veut sauver le pécheur et Jésus s'est livré, s'est donné en sacrifice pour sauver les pécheurs. Alors prions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Prions pour nos gouvernements, prions pour nos familles, pour des gens avec qui on a nos loisirs, afin qu'ils puissent découvrir la vérité. Quelqu'un a dit, la prière n'est pas la seule chose que l'on puisse faire. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous te remercions parce que de savoir que tu as ce cœur plein de compassion pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu ne veux pas qu'aucun ne périsse. Et Seigneur, c'est ton cœur, c'est toi. Tu es plein d'amour pour nous. Merci parce qu'un jour, tu as décidé de te révéler à chacun d'entre nous ici. Merci parce qu'un jour, tu as décidé de nous faire connaître Jésus. Merci parce que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, afin qu'il se livre à la croix pour prendre ma place, prendre notre place, afin que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Ô Seigneur, on aimerait te prier, ensemble comme Église, que tu puisses sauver les âmes, sauver les gens, Seigneur, qu'on puisse voir une multitude ici dans l'Outaouais et dans la francophonie de venir à toi, afin qu'ils puissent découvrir cette joie abondante qui se trouve en Jésus. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.